Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Donc aujourd'hui, je suis très contente de réussir enfin à croiser Pomme.
Oui, moi aussi, trop contente.
Bonjour.
Bonjour.
Et félicitations pour beaucoup de choses. À 24 ans, tu as déjà fait un sacré beau parcours d'émancipation dans plusieurs domaines. C'est parfois violent, douloureux, mais tu as tenu bon. C'est pas facile, donc bravo déjà pour ça.
Merci.
Tout domaine confondu, parce que je sais que c'est sur plusieurs domaines simultanément. Et en fait aussi parce que ça peut encourager pas mal de monde. Tu t'en es rendu compte, je crois. Et je pense en fait en premier lieu à ton parcours dans le domaine artistique. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant pour avoir suivi pas mal de monde dans le milieu musical, parce que tu as fait tout un chemin pour t'affirmer entre ton premier et ton deuxième album. Et tu en as parlé plusieurs fois, de la difficulté pour affirmer et imposer tes choix. Et c'est quelquefois difficile déjà en tant que femme, c'est difficile aussi, c'est plus facile quand on a 50 ans et 30 ans de carrière pour s'imposer, mais donc ça demande déjà pas mal de courage. Et tu as prouvé que ça valait le coup, puisque ton deuxième album a mieux marché que le premier,
oui.
Beaucoup mieux, et tu as aussi eu une victoire révélation. Donc est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, avec un peu de recul, comment tu vois cette période de ta vie? Est-ce que ces transformations intérieures ont changé dans ce que tu proposes en tant qu'artiste? Ce cheminement.
Je pense que c'est hyper bien dit et résumé. Et en fait, c'est un cheminement qui correspond à un cheminement de vie, dans le sens où entre le premier et le deuxième album, j'ai grandi aussi, surtout en tant qu'humain, enfin en tant qu'humaine. Et donc, voilà, je suis passée d'une fin d'adolescence à un début d'âge adulte, début de parcours en tant que femme et plus en tant qu'adolescente. Et je pense que du coup, il y a eu beaucoup de ça en fait. Ça a été beaucoup. Je pense que si j'avais fait un autre métier, ça se serait probablement ressenti dans un autre métier, dans un autre domaine. Et là, ça se ressent très fort parce qu'en fait, ça se caractérise directement dans ma production artistique et dans ma manière de composer, ma manière de créer, ma manière d'envisager mon projet. Et effectivement, le premier album, il y avait quelque chose de pas assez sûr. Il y avait quelque chose de timide. Il y avait du compromis. Il y avait cette idée de se laisser guider un peu qui m'a pas vraiment servi en fait, qui m'a plutôt desservi et qui m'a amené à me faire des réflexions de type si tu fais de la musique pour faire des compromis, peut-être il faut que tu fasses un autre métier parce que ça sert à rien de créer pour faire des choses à moitié qui nous ressemblent à moitié,
c'est ça, et qui ressemblent à d'autres peut-être,
et qui ressemblent à d'autres et qui contentent d'autres mais pas moi. Et j'ai vraiment songé entre le premier et le deuxième album à faire autre chose, parce que je me suis dit je peux pas occuper une place dans la musique et ne pas être moi-même et ne pas être honnête. Donc le deuxième album, je l'ai fait un petit peu avec cette besoin quoi de vraiment faire quelque chose qui me ressemblait à 100%, de faire aucun compromis et voilà. Et je pense que ça a transpiré dans ma musique, mais c'est quelque chose que je vivais moi en tant que personne dans ma vie, de m'affirmer, mais avant de m'affirmer, de me remettre vachement en question, de déconstruire plein de trucs, et c'est encore évidemment en cours et ça sera toujours en cours. Donc voilà, il s'est passé ça entre le premier et le deuxième album, et en fait le deuxième album, c'est un petit peu comme un premier album 100% assumé, et comme un premier album, et je pense que tout ce qui s'est passé autour du deuxième album, ça s'est pas passé pour rien, et que c'était parce que moi j'étais en accord avec moi-même et que tout était aligné quoi.
Voilà, tout est aligné. C'est ce qu'on ressent, je trouve, vraiment en l'écoutant, parce que la musique, ça fait pas exercice de style. Quelquefois, on sent que les gens veulent prouver que ce soit eux ou pas qui est composé ou écrit.
Oui, c'est pas facile.
Il faut rentrer dans une case, avoir l'air, ou vouloir séduire telle ou telle famille musicale ou telle
média
famille de critiques. Ouais. Voilà. Et là, ce qui m'a vraiment beaucoup touchée, j'en ai écouté, je peux dire, des milliers, j'en recevais tellement d'albums quand j'étais journaliste dans la musique. Et tout de suite, ce qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est... J'hésite à employer le mot singularité parce que c'est un mot qui est un peu galvaudé aussi maintenant, mais il y a vraiment quelque chose d'authentique quoi. On le sent. On parlait avant l'interview de Barbara, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. C'est des personnes qui ont creusé en elles pour vraiment faire jaillir leur vrai soi, quoi, leur vraie personnalité. Et souvent, ça prend pas mal d'années. Et là, j'ai eu l'impression que tu avais fait un chemin en accéléré, toi, parce que vraiment, l'album Les Failles, le deuxième album, enfin, puis après, il y a Les Failles Cachées.
Mais... Oui, c'est le même album.
Mais... c'est le même album avec des choses ajoutées. Mais on sent vraiment ce cheminement-là pour arriver à tailler la pierre, pour arriver au diamant brut, quoi, à quelque chose qui... Et du coup, ça touche plein de gens. Enfin, moi, j'étais étonnée de voir que toute génération confondue, que ce soit des amis, les filles de mes amis, ou les fils, tout le monde est touché, quoi, par ces chansons-là.
Bah ouais, c'est assez fou, franchement, c'est assez fou. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah en fait, ça veut dire que t'es à ta place et que c'était un bon choix de suivre ton instinct, quoi. Ça m'a confirmé ça.
De quoi est-ce que tu es la plus fière aujourd'hui de ta jeune carrière, de ce que tu as déjà accompli?
Bah, en fait, c'est une bonne question. J'y ai réfléchi il y a pas longtemps parce que j'avoue qu'en faisant un album comme ça, un petit peu sans attente, ou en tout cas dans l'optique de ne pas répondre à des attentes, les victoires, les disques d'or et tout ça, c'est des accomplissements. Mais du coup, ça n'a pas pour moi une valeur de but en soi, et ça n'a pas une importance colossale, quoi. Je suis hyper contente de faire des concerts devant plein de gens, d'avoir gagné cette victoire et tout. Mais l'autre jour, je réfléchissais justement à ça et à ce qui me rendait vraiment profondément fière au fond de moi. Et en fait, l'autre jour, mon directeur de label, il m'a dit que depuis que j'avais imposé à ce que mon album soit fait en papier recyclé, tous les artistes Universal faisaient leurs albums en papier recyclé. Et je pense que c'est le truc dont je suis le plus fière, en vrai.
Mais disons, bravo.
Ouais.
Félicitations.
Bah ouais, il m'a dit ça. Il m'a dit, en fait, c'est devenu une règle. C'est obligatoire pour tous les artistes Universal Music France. Tous les albums sont pressés sur du papier recyclé depuis que tu l'as imposé sur ton album en novembre 2019. Et je me suis dit, bah, ça me rend plus fière que le reste, en vrai, parce que ça a un vrai impact. Au-delà de... Enfin, ça me dépasse, quoi. Et du coup, je crois que ce serait ça, ouais.
T'as toute ta place sur Sauce Planète, effectivement. Je connaissais pas ce détail.
C'est tout nouveau, c'est tout nouveau.
Pas un détail, d'ailleurs. Mais en papier recyclé, de quoi le livrer?
Ouais, la pochette, il y a plus. D'accord. En fait, les albums avant, ils étaient dans un truc en plastique. Et bah ça, jusqu'à l'année dernière, il y en avait encore. Et moi, je me suis battue. Je leur ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Enfin, c'est du plastique, c'est des boîtes en plastique. Et en fait, là maintenant, donc tout le monde est sur un digipack en carton, et le carton est recyclé, en fait. Donc voilà.
Bravo,
donc,
bravo.
Le livret, tout quoi. Enfin, tout ce qui est papier.
Il faut dire ça largement. T'as pas fait un post Instagram là-dessus? Je suis étonnée.
J'ai pas fait. Justement, quand j'ai posté mon disque d'or, je me suis dit, pourquoi tu postes pas aussi ce truc de papier recyclé et...
Mais oui, parce qu'en plus, tu as tellement de monde qui te suit que ça, voilà, c'est bien aussi de.
Mais ouais, après j'ai ce truc de j'ai cette phobie d'avoir peur que les gens ils me trouvent prétentieuse et tout. Et je pense que quand on évolue dans l'industrie de la musique, c'est pas évident forcément de gérer ce truc là parce que parfois on a juste envie d'être fier, et en fait parfois ça passe pour, enfin, rapidement quand on fait de la musique, les gens nous catégorisent comme étant quelqu'un qui est prétentieux, même si on l'est pas forcément. Et du coup, j'avoue que des fois j'ose pas trop insister sur mes accomplissements. Oui. Mais moi ça m'empêche pas d'être fier.
Oui, mais je trouve pas que tu dégages quelque chose de prétentieux. J'en connais pas mal qui dégagent quelque chose de prétentieux. Je trouve pas.
Bah, c'est juste qu'en France, il y a pas. Enfin, c'est comment expliquer? Avoir confiance en soi, c'est pas hyper à la mode en France.
Oui, mais il y a une différence entre confiance en soi et orgueil.
Bien sûr, mais justement, en France, elle est un peu floue, cette différence, j'ai l'impression.
Oui, c'est vrai.
Enfin bon, ça c'est un autre débat. Mais
oui. Qu'est-ce qui te fait progresser dans la musique, que ce soit pour la composition, l'écriture, les textes, la scène?
Plein de choses. Alors déjà, jouer plusieurs instruments différents, ça me fait élargir mon spectre de possibilités de composition. Par exemple, la guitare, c'est mon instrument de base. Et je compose aussi vachement au piano parce qu'en fait, comme j'ai pas de formation au piano, j'ai pas d'automatisme. Et donc, ça me donne une liberté complètement différente que celle de la guitare, par exemple. Et j'avoue que je suis quelqu'un qui aime beaucoup essayer des nouveaux instruments.
Oui, ça s'entend sur ton album. Hein.
Voilà, je joue plusieurs instruments.
C'est riche de sonorités un peu inhabituelles.
Voilà, et je sais que là, je me suis un peu calmée parce qu'au début de mon parcours, je passais ma vie à jouer des nouveaux instruments et je jouais mal de plein d'instruments. Donc là, je me suis concentrée sur la guitare et l'auto-harpe et le piano, ce qui est déjà pas mal.
Et il n'y a plus de violoncelle?
Non, Il n'y a plus de violoncelle parce que justement ça me demandait une rigueur que j'avais pas et que et qu'en fait trois instruments c'était suffisant. Et
puis c'est pas facile à transporter. C'est enfin, pas facile à transporter. Piano non plus, mais bon.
Bah piano oui. Ça existe en format oui. mini, oui. Donc c'est plus facile. Donc il y a ça en fait, je pense, le fait de d'expérimenter toujours, d'être toujours un peu en recherche d'expérimentation musicale. De récemment, je me suis remis à avoir envie de collaborer aussi avec d'autres gens parce que je me suis rendu compte que c'était hyper riche aussi. Je pense que j'ai eu cette période d'introspection intense et de retour à moi sur ce deuxième album qui a créé une espèce de bulle et j'avais pas du tout envie de collaborer pendant les trois dernières années, je dirais. En réaction, je pense, aux années d'avant où j'avais trop pris en compte la vie des gens.
Laisser les autres entrer voilà. dans ton... Oui.
Donc là, j'ai pas du tout collaboré, enfin très très peu. Et de nouveau, comme maintenant je sais où je vais et que je sais ce que j'aime et tout, j'ai une confiance qui me donne envie d'aller collaborer avec d'autres gens pour... justement ouvrir un petit peu aussi le champ des possibilités artistiques. Donc je pense que ça reste quand même une des solutions chouettes et faciles et enrichissantes pour expérimenter toujours dans la musique, quoi.
Alors après, j'ai quelques petites questions genre interview post-confinement pour là où on en est, quoi, en fait, au moment où on pour que même si c'est écouté dans un an, on pourra situer de là où on parle aujourd'hui, dans cette période un petit peu bizarre. Donc, on est fin septembre.
Ouais.
En France, pour nos amis qui écoutent un peu ailleurs sur la planète, en France, donc nous, on est sortis du confinement au mois de mai. Mmh. C'est toujours très compliqué pour pas mal d'artistes. J'ai vu que tu reprenais une tournée. On en parlera à la fin de l'interview. Donc, on croise tous les doigts pour que le spectacle vivant puisse revivre et nous faire revivre aussi. Est-ce que tu as fait des découvertes ces derniers mois qui t'ont profondément marqué? Parce qu'en fait, on a eu une disponibilité, enfin pas tous, mais il y en a qui n'ont pas eu de disponibilité du tout, même moins que d'habitude, mais certains d'entre nous ont eu un peu plus de disponibilité d'esprit. Mmh. Donc, est-ce que tu as fait des découvertes ces derniers mois qui t'ont profondément marqué, que ce soit en littérature, musique, film, série?
Qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai lu énormément de BD, moi, pendant le confinement, parce que j'avais pas assez d'attention pour lire des romans.
Comme beaucoup d'entre nous.
Voilà. Mais assez d'attention pour... Enfin, besoin de lire, en fait, mais avec un besoin de détente aussi, enfin, d'aération un peu. Et du coup, j'ai
léger,
lu...
Léger, quelque chose de voilà. léger, de...
J'ai lu, bah, en tout cas, l'image aère vachement voilà, la lecture et du coup, c'est plus ludique et oui. plus facile à lire. Et j'ai lu, du coup, j'ai lu mes 10 BD, je pense. J'ai lu les BD de Sophie Guérive qui s'appelle Tulipe. C'est une strasbourgeoise, je crois, qui fait des BD qui ressemblent à des BD pour enfants, mais qui en fait sont pour adultes. C'est des petits animaux comme des petits personnages pour enfants, mais qui ont des réflexions hyper, hyper profondes sur la vie. La philosophie, l'anxiété et tout. Et il y a genre 4 tomes, donc je les ai tous lus pendant le confinement.
D'accord.
J'ai lu en BD aussi une BD, une super belle BD féministe de Julie Delporte, qui est une Française qui vit au Québec, qui à la base voulait écrire une BD sur Tove Jansson, qui est une Suédoise lesbienne qui a vécu, qui a créé les Moomins, les personnages des Moomins, les petits personnages hippopotames. Tu vois pas?
Non.
Mais c'est une femme fascinante, c'est une finlandaise. Qui a vécu au XXe siècle. Et en fait, Julie Delporte, elle voulait écrire une biographie sur Tove Jansson. Et puis finalement, elle a écrit un truc sur elle parce qu'elle s'est rendue compte qu'en faisant des parallèles avec la vie de Tove Jansson, qui a eu une vie du coup très en marge de la société à son époque, qui vivait sur une île avec son amoureuse. Enfin bref, c'était tout un délire. Elle a écrit une BD sur elle et c'est une super belle BD. C'est une espèce de carnet de voyage qui s'appelle « Moi aussi, je voulais l'emporter ». En fait, ça parle du masculin qui l'emporte sur le féminin. Voilà, j'ai lu plein de BD. Après, qu'est-ce que j'ai vu en film? En fait, j'ai une espèce de blackout du confinement. C'était tellement bizarre comme période. J'étais très lente et en même temps très angoissée. Je me souviens de ces BD vraiment très bien.
Ça a marqué.
Ça m'a marqué.
Oui.
Okay. Mais après, j'arrive pas à me souvenir des films que j'ai lus ou j'ai pas écouté beaucoup de musique bizarrement. Enfin, j'étais un peu dans un espace-temps.
Oui, autre. Ça a été des expériences assez curieuses.
Mais les BD, ça m'a un peu sauvée, ouais.
Bon. Et est-ce que cette période particulière a fait naître de nouvelles envies chez toi, des envies de faire des choses que tu ne faisais pas avant?
Oui, ça oui par contre. J'ai fait j'ai dansé, ce qui n'avait jamais été une activité que j'appréciais dans la vie. J'ai dansé beaucoup et ça m'a libérée et j'ai reconsidéré mon rapport avec la danse qui était un rapport terrible où je détestais et où je trouvais ça horrible. Et,
comme dans ta chanson alors.
Exactement. Et j'associais ça à plein de choses qui m'angoissent, à savoir les fêtes, les boîtes de nuit, une espèce de pression sociale qui m'a toujours angoissée. Et là, je me suis mis à danser pour moi, en fait, toute seule, dans mon jardin, pour me défouler, parce que comme on pouvait pas bouger, ben, en fait, j'ai eu besoin de danser, quoi, pour la première fois de ma vie. Donc ça, ça a été un peu une révélation. Et je ne danse plus depuis la fin du confinement, donc ça a vraiment été une espèce de...
De bulle.
De bulle, quoi, et je, ouais, c'était assez fou. Mais j'ai posté des vidéos sur mon... Je crois qu'il y a une vidéo sur Instagram où je danse.
Oui, genre, vraiment, je danse n'importe comment. Deux, non?
Ouais, une ou deux, je pense, oui. Sur Céline Dion.
Oui,
et,
oui, il y a eu celle-ci.
Voilà, et il y en a une autre.
Il y en a une autre plus ancienne, je crois, un petit peu plus ancienne, non?
Mais je fais n'importe quoi, c'est très libérateur.
Il y en a une où tu passes la tête entre les jambes comme ça.
Ah oui, c'est possible. C'est possible, vraiment des pas de danse expérimentaux. Et j'ai fait de l'aquarelle, beaucoup d'aquarelle. En fait, j'ai pris plaisir à dessiner des champignons parce que c'est ma passion. Et donc, j'ai appris à dessiner les champignons.
C'est ta passion en termes d'image ou ta les passion
deux.
À manger
Les
ou
deux.
À... Ah oui.
Bah, moi, je suis végétarienne, donc les champignons, c'est une source incroyable de plein de trucs. Mmh. Et même visuellement, pour moi, c'est associé à tout un univers, une atmosphère que j'aime beaucoup. Donc, je les ai dessinés à l'aquarelle. Et en fait, j'en ai dessiné une quarantaine et j'ai envoyé par la poste à 40 amis un champignon avec un mot et tout. Et j'ai passé beaucoup de temps à faire ça. Et ça a été un peu, je me suis dit, tu devrais faire de... Mais c'est marrant parce que dans ma vie parisienne, c'est pas des choses que je fais. Mmh. Alors que ça me fait vraiment beaucoup de bien. Mais c'est incompatible avec ma vie à Paris, quoi. C'était un concentré de choses que je faisais jamais... savoir danser et dessiner des champignons en aquarelle.
Mais
quoi.
Tu es le plus souvent à Paris, à Lyon,
oui,
ou au Québec?
À Paris.
À
Paris, c'est là où je suis basée. Lyon, oui. C'est là où il y a ma famille, oui. Et où je rentre souvent. Et Montréal, j'y vais de temps en temps. J'ai toute une famille, de sang, mais famille d'amis.
Parce que dans des interviews assez récentes, tu disais que tu aimerais t'y installer.
Ouais, l'année prochaine. Enfin, c'était prévu pour décembre, là, mais du coup, ça va
oui,
être décalé.
Oui, tout est un peu bousculé. Voilà, d'accord. Ça. Mais ça reste peut-être un projet.
Ouais, non, c'est sûr.
Ah oui, c'est sûr.
Ouais, c'est sûr. Ça fait 10 ans que je veux déménager. Ça fait depuis que j'ai 14 ans.
Mais que tu veux déménager dans l'absolu
au
ou
Québec.
Déménager au Québec.
Au Québec.
Ah oui, au Québec.
Depuis que j'ai 14 ans, j'écoutais plein de musique québécoise et je me disais, j'appartiens à cet endroit. J'appartiens pas à la France, même si j'aime la France. Mais j'ai toujours eu ce sentiment-là et ça n'a pas.
Et ça s'est confirmé quand tu y es allée.
Ouais,
et,
complètement.
Alors après. Une prise de conscience, ou s'il y en a eu plusieurs, la plus importante de ces derniers mois?
Ben, je crois que j'ai pris conscience que s'engager pour des causes, c'était plus vraiment un choix. Et que quand on avait la possibilité, c'est-à-dire le temps et ou l'argent et ou les ressources pour le faire, ben c'était pas vraiment... Enfin, je me suis rendu compte que c'était pas genre... Enfin, moi, ça m'a semblé être une nécessité et plus un choix. Et aussi, je me suis rendu compte que s'engager pour les causes qui nous concernent directement, c'est bien, mais s'engager aussi pour les causes qui ne nous concernent pas, c'est important. Mmh. J'ai eu cette prise de conscience dans les derniers mois, notamment avec les soulèvements par rapport au racisme, parce que je me suis rendu compte que j'étais nulle et que j'avais tout à apprendre. Et que c'était vraiment... pas cool que je me sois pas intéressée à ça juste parce que ça me concerne pas, alors que ça concerne une grande partie de la population mondiale. Et donc j'ai réalisé que voilà, quand j'en avais la possibilité, c'était important, voire primordial, de aussi défendre des causes qui me concernent pas directement, mais qui concernent des gens qui ont besoin aussi de visibilité, quoi, et de...
Oui, et de se soutenir, en fait, c'est de la solidarité.
Exactement.
Et par rapport au racisme, James Baldwin disait, et pas mal d'autres, avant lui et après lui, que, en fait, le racisme, c'était pas le problème des Noirs, c'était le problème des Blancs.
Ouais, ouais.
Puisque
oui, c'est ça, en fait.
Les Noirs, tout seuls, entre eux, n'ont pas de problème.
Bah, enfin, non, c'est ça.
Après, il peut y avoir d'autres, voilà. Mais le racisme dont on parle, là, c'est... il faut que les Blancs y réfléchissent, parce que...
Bah, c'est ça. Je me suis rendu compte que c'était mon problème. Et que... Enfin, c'était mon problème. Que c'était un problème qui me concernait, en fait. Et que même si ça ne me concernait pas dans le quotidien, probablement que je participais à ça d'une manière ou d'une autre. Et ça a été une grosse prise de conscience parce que j'ai eu beaucoup de temps pour me documenter, pour lire, pour m'informer. Et du coup, voilà, j'essaie d'être inclusive, en fait, dans mes combats et d'oublier personne parce que c'est pas cool d'être oublié, quoi. Donc voilà.
C'est bien. Bravo encore pour ça. J'ai choisi ensuite quelques mots et quelques noms parce qu'ils font, je crois, partie de ton univers ou pas. J'aimerais que tu nous dises ce qu'ils t'évoquent et ce qu'ils représentent pour toi. On va partir sur des choses assez larges. L'enfance.
L'enfance, ça m'évoque quelque chose de pas si lointain et de très présent même encore dans mon quotidien. J'ai toujours l'impression d'être un peu une enfant. éternel, ce qui m'empêche pas d'être une adulte, mais quand même avec ouais, cette espèce de part d'enfant. Et ouais, j'ai eu une enfance plutôt joyeuse, mais j'étais très mélancolique enfant. J'étais tout le temps un peu triste et je me posais plein de questions déjà sur la vie, sauf que j'avais pas les outils pour pouvoir m'exprimer, donc c'était plus compliqué. Mais j'ai eu une enfance hyper privilégiée, hyper heureuse, avec plein de chouettes moments. J'avais une famille, enfin j'ai trois frères et sœurs, donc on était beaucoup. Et des animaux et un jardin et tout, donc j'ai des souvenirs plutôt joyeux.
L'âge adulte.
Bah, l'âge adulte, ça a commencé il n'y a pas si longtemps, 3-4 ans. Et je suis mitigée moi sur l'âge adulte.
T'es pas sûre de vouloir y rester?
Non, je suis pas hyper fan.
Non.
Bah en fait, le truc chouette c'est que plus...
Si ça te plaît pas, tu vas repartir. Donc.
Ouais, c'est oui. Ça. Bah non, mais en fait, le truc cool c'est que grandir et devenir adulte, ça veut aussi dire se connaître mieux et aussi évoluer. Et quand on a envie d'être une bonne personne, on évolue forcément vers le mieux. Mm-hmm. Et je pense que je suis vachement plus ouverte d'esprit que ne serait-ce qu'il y a 3-4 ans. Et pour ça, je me dis, c'est chouette d'être une adulte. Après, je ne suis pas hyper fan des autres adultes, en général. Et mes amis proches de mon âge, ils ont un peu ce truc-là aussi, où il y a tellement de bouleversements en ce moment, sociaux et tout, qu'il y a quand même une espèce de fossé qui se crée entre la plupart des adultes plus vieux et les adultes qui sont des adultes aujourd'hui. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de communication entre les deux. Et ça, c'est pas évident, je trouve. Parce que moi, j'ai pas l'impression d'être un adulte quand je vois les adultes de 45 ans, quoi. Genre, la plupart, en tout cas, que je rencontre au quotidien. Les gens avec qui... les patrons, les gens... Enfin, les adultes, en général, des fois, j'ai l'impression que c'est une autre catégorie de gens. Mais parce que je pense que, comme je disais, il y a tellement de soulèvements et tellement de causes et que je pense qu'on est une génération qui est hyper consciente hyper consciente et... Et c'est pas évident, je trouve, de faire des ponts. Donc, ouais, l'âge adulte, c'est, je crois que c'est un peu à redéfinir aussi tout le temps.
Oui, c'est peut-être à redéfinir.
Ouais.
Parce que là, en fait, peut-être que ce que tu évoques, c'est plus une question de génération, de différentes générations.
Oui, c'est ça. Et probablement
qu'il y a pas mal de personnes de la génération plus âgées que la tienne qui, finalement, sont un peu dépassées par
oui,
pas mal
voilà,
de choses.
Oui, et moi, je serais sûrement considérée comme réac dans 5 ans par des ados, hein, c'est possible.
Oui, pas forcément, parce qu'on est quand même à une époque vraiment particulière
oui.
où il y a eu beaucoup de bouleversements
oui.
qui sont devenus apparents. Enfin, ça fait des décennies qu'il y a plein de gens qui se battent, se mobilisent
bah oui.
pour tout ça. Mais le fait
là, c'est plus visible, quoi.
Voilà, que ça soit accessible vraiment.
Peut-être que du coup, ouais, ça va créer une espèce d'ouverture quoi, qui va perdurer. Mais...
On espère.
Mais oui, je me sens... Ouais, c'est très bizarre d'être un adulte, des fois.
Écrire,
ça fait partie de mon quotidien. Pas toujours des chansons, mais j'écris beaucoup de textos, par exemple. J'écris dans un carnet de bord.
Il y a eu des petits poèmes aussi,
j'ai vu. Des petits poèmes. J'écris beaucoup, ouais, ça fait vraiment partie de mon quotidien.
Est-ce que tu as commencé à écrire ton prochain album ?
Pas vraiment.
Non ?
Pas vraiment, parce que cet album, Les Failles, en fait, il est vraiment majeur dans pour moi, encore à ce jour, et il est encore très important, et j'ai du mal à aller vers autre chose parce que j'ai encore, je crois qu'il fait encore partie intégrante de ma vie et qu'il est encore récent dans ma tête et qu'avec cette histoire de confinement, en fait, j'ai été confinée quelques mois après sa sortie et du coup, il y a quelque chose de pas naturel pour moi d'aller directement vers un autre projet. C'est pas
oui,
naturel.
Parce que tu l'as pas encore là, normalement, au jour où on se rencontre aujourd'hui, il devrait y avoir quoi ? Un an déjà, il y a
un an avec des centaines de concerts,
voilà.
Des festivals, des promos qui n'ont pas eu lieu. Quoi.
Voilà.
Enfin,
et que là, en fait, on ne peut pas dire que tu commences parce qu'il y a eu les victoires, mais tout de suite après, ça s'est refermé.
Exactement.
Et c'est resté
comme une deuxième
sous
phase,
cloche. Quoi.
Voilà, c'est comme une deuxième phase et ça, j'avoue que ça ne m'inspire pas tellement à écrire de nouvelles chansons parce que du coup, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait fini. Quoi.
Et tu aurais envie d'écrire d'autres choses, d'autres genres, de la fiction, des nouvelles des...
Pas forcément. La poésie, ça reste quand même le plus accessible pour moi parce que je suis pas écrivaine et du coup, j'ai ce rapport avec l'écriture qui est très instantanée, très directe comme dans les chansons. Et du coup, la poésie, ça me permet d'être très libre et de pas avoir à cadrer forcément en fait,
oui.
L'écriture, ce qui est pas mal. Quoi.
La scène.
La scène, ça a toujours été un peu mon leitmotiv, ça a toujours été un petit peu la raison pour laquelle je fais de la musique et c'est pour le coup un peu un but quoi, c'est un peu C'est un peu, ouais, la rencontre avec le public, c'est souvent, enfin, c'est même carrément ce qui me motive à faire de la musique, à faire des projets. Je me projette vachement sur scène tout le temps et c'est un peu l'endroit où je me sens bien et où je lâche prise, quoi. C'est un peu le seul endroit où je lâche prise mentalement. Donc c'est hyper important pour moi et ça fait partie de mon quotidien depuis longtemps maintenant.
Oui, c'est ça, parce que ouais. Là tu en fais toi vraiment depuis longtemps, depuis bien avant ton premier album.
Bien avant, depuis 2000, franchement ça doit faire presque 10 ans.
Oui, puis avant tu faisais partie d'une chorale aussi quand étais petite, t'as fait aussi des tournées ailleurs qu'en France, voyageant pas mal, donc t'étais déjà un peu dans le bain.
J'ai toujours été un petit peu sur scène.
Paris,
c'est la ville où j'habite, mais c'est pas ma ville préférée. C'est un peu l'angoisse, c'est un peu oppressant. Et en même temps, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose à faire, quelqu'un à rencontrer, une discussion chouette à avoir. Donc c'est hyper vivant, en fait. Donc c'est dur de quitter Paris, je trouve, mais ça ne saurait tarder, je pense. Là, ça fait 5 ans que j'habite à Paris, maintenant. Et je commence un peu à être fatiguée. C'est fatigant, en fait.
Oui, parce qu'il y a une densité de population, de bruit, de stress.
C'est ça.
Le Québec, on enchaîne.
Direct, sans transition. Le Québec, c'est l'inverse de Paris, un peu. C'est un endroit hyper safe, avec de la place, avec pas beaucoup de gens, avec une autre culture et aussi une espèce d'absence d'agressivité. Il y a vraiment... ça ressemble sur certains points et en même temps ça ressemble pas du tout. C'est assez moi ça m'apaise vachement le Québec.
Oui, c'est il y a moins de stress. Ouais. Les oiseaux, c'est une chanson qui s'adresse à la ville de Montréal.
Ouais. J'aime beaucoup personnifier les lieux ou les choses. Je l'ai fait aussi dans Anxiété où j'ai personnifié l'anxiété.
Oui.
Et je sais pas pourquoi ça m'aide vachement à écrire, je pense que ça m'apporte un espèce de regard extérieur, enfin, ça m'évite de parler de quelque chose de manière trop directe et du coup ça me donne une liberté et une aisance en fait que j'ai pas forcément si je parle directement des choses. Et ouais, c'est une espèce de déclaration d'amour à la ville de Montréal et c'est cette idée de me sentir moi-même quand je suis là-bas, de me sentir bien et tout, et en fait je pense que c'est aussi une chanson qui peut être associée à plein d'endroits selon les gens qui l'écoutent et c'est un endroit safe qui et je parle des oiseaux parce que c'est que des métaphores en fait, c'est que des images en fait qui sont plus ou moins liées à mon expérience et en même temps à l'expérience de tout le monde un peu quoi. C'est un peu l'endroit où on aime être, qui nous fait du bien, qui est l'endroit rêvé, qui est l'endroit idéal mais qui est pas forcément l'endroit où on vit dans le présent quoi.
Même si tu y as déjà passé pas mal de temps quand même. Et Soleil Soleil aussi, c'était, je crois, une chanson que tu as écrite au Québec
ouais.
Par grand froid.
Ouais, en décembre, quoi. Décembre, nuit à 15h30. Quoi.
Moins combien ? Moins 30, moins 40 ?
Ouais, moins 30. Ouais.
Et sur le Québec, j'ai vu donc aussi, je te le disais avant l'interview, sur YouTube, que tu avais fait un très très beau duo avec Pierre Lapointe, que j'avais interviewé pour son premier album.
Ah oui, oula, Forêt des Mal-Aimés ? C'était La Forêt des Mal-Aimés, je crois, non ?
Je ne sais plus ce que c'était le titre, mais c'était le premier. Qu'il était venu défendre en France. Ouais. Et vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est un titre qui s'appelle « Tel un seul homme ».
Ah oui. Oui, le duo qu'on a fait à Montréal.
Et vous avez échangé plus ? Ça a été juste comme ça le temps de la chanson ou vous avez pu un petit peu vous rencontrer ?
Ah non, mais c'est un très bon ami à moi. C'est lui qui m'a introduit au Québec, en fait. Moi, j'ai fait ses premières parties quand j'avais 18 ans. 18-19 ans, 2014, et en fait c'est lui qui m'a présenté à tout le monde là-bas. Et comme j'ai été présent, en fait on a le même tourneur, donc il s'avère que mon tourneur m'a offert ses premières parties, donc j'ai rencontré comme ça, et ensuite la première fois que je suis allée au Québec, il m'a emmené dans des soirées, il m'a fait rencontrer des gens, et c'est via lui un petit peu que je suis arrivée au Québec en connaissant personne, et comme lui il connaît tout le monde, c'était totalement un hasard, mais c'était quand même assez magique d'être présenté au Québec par lui, parce qu'en fait, il est très apprécié là-bas.
Oui, maintenant, il a une forte notoriété, bonne notoriété, exactement. Reconnaissance.
Et du coup, on a fait plusieurs fois des duos. On a chanté ensemble au Café de la Danse il y a quelques années pour mon concert. On a chanté sur son concert, donc « Tel un seul homme » à Montréal. On a souvent collaboré. Là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, mais on est amis, quoi.
Alors, on change de destination géographique, le Japon.
Oui, le Japon, c'est un peu ma passion.
Qu'est-ce que ça t'évoque, oui.
Bah, ça m'évoque tout d'abord mon éducation de films d'animation de Miyazaki, que j'ai donc regardé dès le plus jeune âge, enfin que mes parents nous ont montré dès le plus jeune âge à mes sœurs, enfin mes frères et sœurs et moi, mais surtout à mes sœurs et moi, parce que c'était un petit peu en opposition aux films de Disney et à cette espèce de d'univers en fait hyper misogyne. Mmh. Et voilà, en opposition, les films de Miyazaki, c'est souvent des héroïnes, des petites filles qui sont des héroïnes, qui sont indépendantes, enfin Chihiro.
Ah oui, c'est vrai. En fait, j'avais jamais tilté. Pour moi, il y a la dimension écologique, il y a tout ça, spirituel.
Il y a la dimension écologique, mais il y a beaucoup de féminisme.
Mais c'est vrai que Princesse Mononoke, Chihiro, bah ouais. C'est il y a beaucoup de...
Bah, c'est des femmes complètement indépendantes. Enfin, Chihiro, il y a tout un voyage, il y a tout un truc un peu initiatique où, elle a 10 ans, elle se retrouve toute seule, sans ses parents qui sont devenus des cochons. Enfin, tout est un peu...
Un peu fou.
Tout est un peu bizarre et en même temps, hyper initiatique et hyper symbolique. Et c'est des films que j'ai regardés enfant et que j'ai re-regardé adulte et qui me passionnent toujours autant. Et en fait, du coup, j'ai commencé des cours de japonais.
Ah oui?
Ouais, il y a 2 ans. Et voilà, donc maintenant je suis...
Je comprends mieux alors quand tu as joué dans l'émission Click, parce que tu as joué le générique que tu as chanté en japonais, et je me disais, mais est-ce que c'est juste elle a appris par cœur phonétiquement ou
non, je comprends un peu. Je parle pas du tout couramment, j'ai validé pendant le confinement mon A1, donc c'est le niveau 6e, quoi, niveau 12 ans.
Ah oui, mais c'est déjà bien parce que c'est compliqué quand même.
C'est compliqué,
hein.
Mais le A1, il est pas trop compliqué, mais après, pour aller au-delà, c'est un peu compliqué, ouais.
Donc moi, j'ai trouvé une interview sur le net où tu parlais que tu étais allée une fois ou deux, je crois, au Japon, tournée, où tu n'avais pas eu le temps de...
Pendant 3 jours.
Ah oui, très très court. Et tu n'as pas eu l'occasion encore d'y retourner?
Non, parce qu'en fait, j'y suis allée en septembre, il y a 2 ans. Entre-temps, j'ai sorti mon album et je devais y aller. Là, en fait, je devais y être pendant un mois en vacances, quoi, toute seule au Japon. Et avec le Covid, ça n'a pas été possible, donc c'est reporté. Mais l'idée, c'était d'aller toute seule là-bas et de pouvoir me débrouiller et parler là-bas toute seule, quoi. Ouais, c'est un peu l'idée.
Et donc, tu voudrais faire un périple ou juste
rester à Tokyo?
Je crois
qu'il y a un train qui fait le tour du Japon.
Ah oui?
J'aimerais bien prendre ce train et m'arrêter un peu partout.
Oui, parce qu'entre le sud, où c'est quasiment tropical, et puis le nord, où il y a de la neige.
Ouais, c'est hyper riche, quoi. Mais en 3 jours, j'ai fait 3 jours à Tokyo, j'ai rien vu, quoi.
Ah, moi, je suis allée 2 fois, mais j'ai fait Tokyo-Kyoto, Kyoto-Tokyo, et j'ai pas eu l'occasion. Mais je pense que j'y retournerai aussi. C'est une culture tellement différente.
C'est fou.
Et c'est là où on se rend compte à quel point ici on peut être formaté justement. Bah ouais. On a l'impression que la culture occidentale, on a l'impression que les références américaines, c'est dans le monde entier, c'est universel. Et quand on arrive en Asie, on se rend compte à quel point. D'ailleurs, moi j'avais toujours vu à l'école des maps mondes, enfin des cartes des planisphères avec l'Europe au milieu, bien sûr.
Bah oui.
Et quand tu es en Asie, évidemment, l'Europe est pas du tout au centre.
Pas du tout.
Et rien que ça avait une grosse prise de conscience pour moi.
Super bizarre.
Ah oui, je m'étais dit, bon, ok.
Ouais. C'est complètement différent, quoi.
Tu as déjà donc pas mal voyagé. Quels sont les autres pays qui t'ont marqué?
L'Islande. Ouais, j'ai adoré l'Islande. Je me suis dit que je pourrais vivre là-bas aussi, mais ça, c'est un petit peu dans la même. Enfin, il y a quelque chose de québécois, il y a quelque chose de nordique en fait, juste que j'aime beaucoup. Où est-ce que j'ai voyagé que j'aime beaucoup? J'aime beaucoup l'Italie. Franchement, j'aime beaucoup voyager. Découvrir des cultures, des pays, des gens, et surtout être perdu et être tout à apprendre un petit peu dans un endroit. Je trouve ça chouette.
Alors encore quelques mots. Sensibilité,
que dire à part que chacun en a une, ça c'est sûr. Moi je crois que je suis un peu hypersensible des fois. Ouais, je crois que j'ai ce truc-là, qui n'est pas forcément toujours évident.
Mais dans ta musique, moi, je trouve que c'est ce qui touche aussi, quand même.
Ouais, il y a un truc très honnête, très brut, quoi.
Tolérance,
moi, j'apprends la tolérance tous les jours de ma vie, parce que j'étais pas quelqu'un de très tolérant, adolescente et enfant. Parce que, je sais pas, j'étais pas quelqu'un de très ouvert, en fait. Enfin, quand j'apprends aujourd'hui des choses et que je déconstruis des choses, je me rends compte du chemin que je fais et de là où je viens, et je me dis, ouais, j'ai dû blesser des gens parce que j'étais pas ouverte du tout. Et aujourd'hui, c'est un peu une des valeurs fondamentales, quoi, de mon quotidien. Et tous les jours, j'essaie de l'être un peu plus, d'apprendre, de me remettre en question aussi. C'est un peu ça, la tolérance aussi, c'est de pas avoir de mal à se remettre en question, quoi. C'est un peu ça aussi.
La vulgarité.
La vulgarité, des gros mots quoi, ou
ça peut être ça, ça peut être des comportements, ça peut être.
Ah, c'est un peu, enfin, je crois que c'est assez subjectif comme.
Ben oui, justement.
Bah parce que une fille vulgaire, c'est pas pareil qu'un garçon vulgaire et qu'il y a des espèces de clichés un petit peu autour de la vulgarité. Moi, je suis assez, je suis pas quelqu'un de, comment expliquer. Je m'arrête pas à ça et bon, à moins que ça blesse les gens, mais tant que tu blesses pas les gens, dans ma tête, tu peux t'exprimer comme tu veux, tu peux, tant que ça respecte l'intégrité des autres, j'ai pas de manière, moi, j'ai pas de manière, j'aime pas les, enfin, ça m'intéresse pas, les manières, les apparences, disons que c'est pas ça qui me fait juger, qui me fait estimer quelqu'un, quoi.
Voilà. Mode.
Oula.
Mode, tendance.
Gros sujet, parce que la mode, c'est fascinant. Enfin, la mode, moi, je pense directement aux vêtements. Et en même temps, c'est pas du tout éco-friendly et c'est ultra destructeur pour la planète. Et donc, moi, je m'habille quasiment que en friperie depuis des années. Et
Même ce beau pantalon avec tous ces dessins de Miyazaki là,
mais
que
oui,
tu as aujourd'hui.
Même ce beau pantalon, mais je pense que il a été acheté par quelqu'un à qui il n'allait pas, parce que je vois pas comment on peut donner ce pantalon. Donc je pense que quelqu'un l'a acheté.
Je pensais que tu l'avais fait.
Enfin, non,
je
c'est quelqu'un.
Je crois que je t'ai vu avec sur Instagram et je me suis dit, elle est fan de Miyazaki, elle s'est fait un pantalon.
Bah, ça ressemble à un pantalon fait main, mais je crois que c'est une marque sur internet et c'est quelqu'un qui a dû l'acheter et qu'il était trop petit ou trop grand, je sais pas, mais.
Et toi, il te va.
Bah ouais, et du coup voilà, mais après non, ça, les chaussures je les achète neuves, j'achète des Doc Martens neuves, mais par contre tout ce qui est t-shirt, pull, veste, manteau, c'est tout le temps de la friperie.
D'accord.
Ouais.
Voix, V-O-I-X, est-ce que tu es sensible aux voix, et en dehors de la chanson, est-ce qu'il y a des voix qui t'ont marqué?
Ben ouais, je suis hyper sensible aux voix. Il y a des voix qui m'ont marqué. Bah, alors c'est difficile en dehors de la chanson. Barbara, on en parlait avant l'interview, mais Barbara, c'est une voix parlée et chantée qui m'a vachement marqué. Et qui d'autre? Ouais, il y a des voix qui restent un peu. Genre, j'ai pas de nom comme ça, mais oui, ça me.
Ça peut être des comédiens, des comédiennes, des personnalités.
La voix de Sophie Marceau, je me souviens de la voix de Sophie Marceau dans La Boom, hyper douce. Et même dans. Elle a fait après, elle a joué dans LOL, qui était le film qui ressemblait à La Boom, mais où elle jouait la mère, du coup. Et elle a une voix hyper douce aussi. Si, en vrai, j'ai des voix très précises dans la tête. J'ai une mémoire auditive de toute façon, donc je retiens vachement les voix.
Alors, l'auto-harpe, parce qu'en fait, j'ai pas trouvé dans tes. Je pense que tu as dû, forcément, il y a eu tellement d'interviews où tu as bien dû expliquer comment cet instrument était arrivé dans ta vie.
Ouais. Mais... Ben, c'était dans le film Walk the Line sur Johnny Cash. Le film avec Joaquin Phoenix. En fait, dans ce film, il y a l'actrice qui joue June Carter, qui joue de l'auto-harpe. Et du coup, j'ai cherché sur Google. J'ai tapé genre qu'est-ce que c'est, et j'en ai acheté une sur Google, enfin sur Internet quoi.
Oui, oui, oui.
Ouais.
Et tu t'es débrouillée pour apprendre ça toute seule.
Ouais, en regardant des vidéos quoi. Avec Internet, maintenant, tout est un peu possible.
Bon. Lego.
Lego. Lego, la gestion de Lego, c'est pas évident toujours. C'est surtout dans cette industrie où on est souvent flatté et on le disait tout à l'heure, en France c'est pas évident de gérer correctement son ego, parce que on en a soit trop soit pas assez, et en général c'est mieux de pas en avoir assez, parce que quand on en a trop, c'est vite considéré comme de la prétention et tout, et c'est pas évident, je trouve, d'avoir un... Enfin, je pense que de soi à soi-même c'est plutôt simple, mais après en miroir avec les autres c'est pas facile quoi. C'est une gestion et on vit quand même dans une société où il est un peu malmené l'ego quoi, genre qu'il soit un peu trop nourri ou pas assez nourri, c'est toujours un peu compliqué quoi.
L'exposition, être exposé.
Ça c'est nouveau un peu dans ma vie, je découvre un peu. Je découvre, et encore une fois, comme il y a eu le confinement, j'ai eu une exposition assez express puisqu'après je me suis retrouvée confinée. Donc je crois que finalement j'ai pas connu la surexposition que j'aurais peut-être connu sans le confinement, en fait. Donc c'est un mal pour un bien. Enfin, c'est peut-être le seul truc positif de ce confinement, c'est que ça a évité une espèce de burn-out, je pense, que j'aurais fait si j'avais continué sur ce rythme-là que j'avais en février. Donc l'exposition que j'ai aujourd'hui, en fait, elle est... hyper agréable parce qu'elle ne change pas du tout mon quotidien, mais par contre, elle me permet d'avoir une place dans les médias, dans la musique et de pouvoir m'exprimer et être entendue, quoi. Donc aujourd'hui, j'avoue que je n'ai pas grand chose à redire sur là où j'en suis par rapport à ça. Et ça me fait toujours plaisir que des gens connaissent mon travail. Et en même temps, je sais qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas encore. Et je crois que je suis dans une position, je suis assez privilégiée, quoi, sur ce point.
La sincérité.
Bah, hyper important, hein. La base de cet album, en tout cas, Les Failles.
Sorcière,
le livre de Mona Chollet que j'ai adoré, mais aussi toute une fascination que j'ai depuis que je suis enfant pour les sorcières, pour la sorcellerie, pour la symbolique autour de ça, pour Halloween, pour voilà, la globalité du projet qui est d'être une femme qui se réapproprie un petit peu son corps, son savoir, son impact en fait, un petit peu, c'est ça je crois.
C'est le titre d'une de tes chansons,
oui.
Du dernier album. Engagement, tu en as parlé déjà, de différentes formes d'engagement.
Bah, je parlais du fait que c'était important pour moi d'essayer de m'engager, pas uniquement pour les causes qui me concernent directement,
oui.
mais à la base, j'étais surtout impliquée dans l'écologie, dans
T'as le
féminisme.
Tu as fait une petite vidéo, j'ai vu, pour soutenir Europe Écologie Les Verts,
oui.
Dans là où
oui,
tu
parce
es
que ma petite sœur était sur la liste. Donc,
d'accord.
Elle m'a demandé, j'ai dit...
C'est sympa.
Bah ouais.
Ok, donc la sensibilité écologique,
voilà.
Depuis toute petite,
depuis
ça
toute
c'est
petite,
familial,
c'est
l'environnement familial, d'accord.
C'est mes parents et j'avoue que je l'ai creusé, je l'ai accentué, je l'ai réfléchi parce que je fais un métier qui implique que je pollue vachement, parce que je voyage vachement. Et donc j'ai cette conscience-là, j'essaie de compenser, j'essaie de trouver des moyens d'être le moins impactante négativement possible sur la planète. Et puis comme j'ai un certain nombre de... Enfin, comme j'ai une tribune en fait sur Internet et que j'ai une visibilité et une plateforme, ben j'essaye aussi d'encourager
oui.
Les gens à faire attention sans jamais donner de leçons parce que je suis encore une fois toujours en apprentissage de plein de trucs, mais voilà, de sensibiliser, de juste faire réfléchir les gens, c'est toujours ça. Moi, c'est jamais, j'ai jamais la prétention d'avoir la science infuse, d'avoir une idée révolutionnaire et tout. C'est juste l'idée, c'est d'utiliser à bon escient en fait. Le média en fait qui est Instagram, quoi.
Et maintenant t'es végétarienne, végane?
Végétarienne, pas très loin d'être végane en vrai parce que je mange pas de produits laitiers, mais je mange des œufs et du miel et je crois que du coup on peut pas dire que je suis végane.
Ça c'est aussi par sensibilité écologique,
oui, oui.
Le fait de plus manger de viande,
ah,
plus
oui.
Manger de
plus de poisson, plus
d'accord.
De viande.
Il y a eu aussi le titre 2019 dont les bénéfices étaient pour Urgence Homophobie.
Oui.
Et les animaux sont nos amis. Qu'est-ce que c'est ce titre que j'ai trouvé sur Spotify,
oui.
Avec une chorale d'enfants, non?
C'est un atelier que j'ai fait au Québec l'été dernier pour un festival. Un petit festival qui s'appelle le Bleu Bleu et c'était le festival d'une amie et en fait j'ai fait un atelier gratuit pour des enfants qui ont décidé d'écrire une chanson sur les animaux et on l'a enregistré et on l'a mis sur Spotify et avec l'argent récolté je crois que c'est l'argent qui va aller dans une association pour les belugas je crois.
Ah très bien.
Voilà, c'est vraiment un petit truc mignon. Mais
il
y a pas mal
des blanches. Je sais pas si on appelle ça des baleines d'ailleurs.
Si, enfin, si c'est des baleines. Oui. Ça fait partie de la famille des cétacés, mais c'est les petites baleines blanches,
oui.
Avec un nez un peu en bosse, là. Enfin, avec
oui,
une
oui,
bosse
oui.
Sur la tête.
C'est une drôle de.
C'est trop mignon.
Oui.
Et donc voilà, c'est sur Spotify et ça a un certain nombre d'écoutes, mais c'était pas censé avoir un rayonnement international, mais voilà.
Eh ben oui, mais si c'est sur Spotify.
C'est ça.
Tu avais mis un post sur Instagram qui disait, mais je sais pas si c'est toujours d'actualité, tu disais il y a quelques mois en voyant que vous étiez si nombreux à venir au concert, une idée a mûri dans ma tête, une idée qui a d'autant plus de sens aujourd'hui. Il y a beaucoup de causes et de luttes que je défends publiquement et ou personnellement, mais parfois je ne me sens pas tout à fait légitime de vous en parler le mieux. À partir de cet automne et tout au long de la tournée, j'ai décidé de donner la parole à des associations et des personnes concernées par ces causes. Est-ce que c'est toujours d'actualité du
bah,
coup,
malheureusement, je ne peux pas faire venir des gens physiquement.
Ah oui.
Par contre, j'ai demandé aux associations qui le souhaitaient de m'envoyer des vidéos pour que je puisse projeter des vidéos avant les concerts.
Donc
au moins,
sur les sujets qui te
voilà,
touchent.
Au moins en attendant de pouvoir faire venir les gens pour de vrai. Mais j'aurais aimé que les assos puissent venir faire des stands et faire de la sensibilisation et prendre de l'espace un petit peu et proposer des activités et proposer des conférences et tout avant les concerts et c'est pas possible à cause du Covid mais je pense que j'essaierai de passer des vidéos déjà pour au moins qu'il y ait une visibilité autour de certaines assos et puis de mettre ça en place mieux l'année prochaine quoi.
Alors, juste deux, trois noms dans la musique, donc, parce qu'on en a parlé avant l'interview, mais les micros étaient off. Barbara, évidemment, qui a eu une influence, ou en tout cas qui t'a beaucoup touchée.
Oui, oui, vraiment.
Que ça, t'as ça pas pu voir sur scène. Mais...
Non, j'avais un an quand elle est décédée, donc c'était pas possible. Et j'ai découverte à 8 ans via ma prof de chant, et en fait, j'ai jamais arrêté de l'écouter. Et elle m'a... C'est l'artiste la... que j'ai le plus écoutée, qui m'a le plus accompagnée, qui m'a le plus bouleversée. Et je pense que ça changera pas, parce que, bon, je me dis, ça fait... 15 ans maintenant et j'ai pas eu d'obsession aussi intense avec personne d'autre quoi. Bon, peut-être hein, mais en fait pour moi elle est toute seule dans sa catégorie quoi.
Et il y a quelque chose je trouve de chez Barbara que j'ai retrouvé chez toi bien que les styles soient complètement différents, c'est que quand on écoute vraiment un album de Barbara, pas en faisant autre chose mais qu'on est vraiment dedans au casque ou quoi, il y a quelque chose de il y a une intimité. On entre dans une intimité. Il y a une sensibilité, mais il y a une intimité qui est vraiment dingue, je trouve. Et que j'ai ressenti aussi en écoutant ton album. Il y a un univers très intime comme ça.
C'est une sorte d'honnêteté aussi, une sorte de vérité absolue. Quoi.
Janis Joplin.
Janis Joplin, je ne l'ai pas beaucoup écouté, mais je me souviens d'avoir vu il y a quelques années un documentaire sur sa vie, je ne sais pas, il y a genre 3-4 ans, qui est sorti au cinéma.
Janis, oui.
Voilà, et en fait, avant ce documentaire, je la connaissais pas très bien. Enfin, je savais que c'était une icône et je me disais, ah, elle doit être super, mais je la connaissais assez mal, comme Patti Smith. En fait, je les ai découverts par des biais étranges. Patti Smith, je l'ai découvert par son livre, Just Kid.
Just Kid, voilà. J'ai adoré ce bouquin.
Mais voilà, c'est des artistes, en fait, que je sais être des piliers de la musique et des piliers de féminisme et d'indépendance des femmes. Mais que je connais musicalement, bizarrement, pas beaucoup, en fait. Enfin, y a un truc où, pour moi, elles existent, elles sont là, et elles sont un peu comme des statues dans un paysage. Et elles sont... Ouais, je sais pas, elles sont hyper puissantes, mais je me suis jamais plongée, en fait, dans le...
Mais Janis, la carrière a été très courte. Hein. Voilà, il y a que trois albums, je crois.
C'est ça.
Bon, donc, Patti Smith, on en a parlé. Ouais. John Baez.
John Baez, je connais beaucoup mieux pour le coup. John Baez, j'ai vraiment écouté énormément.
Ah oui, puis t'aimais beaucoup la folk.
J'aimais beaucoup la folk. Adolescente, j'étais en monomaniaque de la folk américaine et j'écoutais beaucoup. Et John Baez, pour le coup, je connais quand même beaucoup, beaucoup de chansons. Et elle a une voix incroyable. Je l'ai vu en concert aux Nuits de Fourvière il y a quelques années.
Oui.
C'était trop beau.
Je l'avais vu au Grand Rex. Magnifique.
Ah ouais, non, elle a une voix incroyable et une sincérité, encore une fois. C'est que des artistes sincères, c'est que des artistes pour qui la musique est une nécessité, en fait. Oui. Et je pense que c'est ça qui me touche.
Alors, Miyazaki, on en a déjà pas mal parlé, donc on va passer vite. Ton film préféré de Miyazaki ou tes films préférés ?
Le voyage de Chihiro.
D'accord.
Ouais. Le voyage de Chihiro, Ponyo sur la falaise.
Ah, j'adore Ponyo.
Ouais.
Trop mignon.
Et puis, Mononoke.
Le château. Alors, je comprends toujours, il y a le château ambulant et le château dans le ciel. Mais,
Le château dans le ciel, c'est avec la petite fille qui vole. Et le château ambulant, c'est avec la vieille dame. Et,
oui, avec celui où il y a cette espèce de grosse maison.
C'est le château ambulant. Ouais.
C'est le château ambulant. Ouais. Ouais. OK. Quelques personnalités que tu trouves inspirantes, là, aujourd'hui, en 2020
Angèle.
Oui.
Camélia Jordana.
C'est tes amis, ça, non ?
Oui. Bah oui, mais mes amis m'inspirent. Et puis, c'est des amis précieuses et c'est des amis qui ont une voix, quoi, qui ont une voix qui porte. Donc, Camélia, Angèle, Billie Eilish, des gens qui m'inspirent.
Et hors musique ?
Hors musique, je réfléchis.
Qui a eu des personnalités ces derniers temps, ces derniers mois ou ces quelques dernières années.
Greta
Thunberg.
Bah ouais. Greta, je réfléchis. Rupi Kaur, tu connais ou pas ? C'est une poétesse indienne. Elle fait des poèmes féministes sublimes. Elle a fait 2 recueils.
Ok. Qu'est-ce que tu souhaites le plus aujourd'hui ?
Qu'est-ce que je souhaite le plus Que les choses arrêtent d'empirer.
Oui.
Que le monde aille mieux, en fait. Qu'on voit des vraies améliorations et pas juste des mini-améliorations. Et qu'en fait, qu'il y ait des belles choses qui continuent de se passer et tout. Et que ça s'équilibre un peu parce que là, il y a eu beaucoup de choses terribles. Donc, et puis, remonter sur scène dans une sphère plus égoïste. Remonter sur scène, ça va se passer, mais remonter sur scène et pas avoir peur de contaminer les gens tout le temps. Ouais, qu'en fait, que la culture continue de vivre dans cette pandémie mondiale et qu'on réussisse à s'en sortir sans trop de séquelles, quoi. Et que les assos et que les gens qui militent et qui donnent un peu leur, leur temps et leur vie pour des causes ne perdent pas espoir, quoi. C'est un peu ça, le... Ouais.
Très bien.
Merci.
Pomme, merci
bah,
beaucoup.
Merci à toi.
Pour cette longue interview.
Oui, ça m'a fait très plaisir.
Moi aussi, ça m'a fait très plaisir. Donc écoute, vraiment, je te souhaite une bonne continuation.
Merci beaucoup.
Des beaux concerts, une belle scène.
Bah,
et puis
oui.
J'espère qu'on se reverra pour un prochain album. Que tu, auras eu l'occasion, de le temps de mûrir.
Bah, oui.
Et,
avec plaisir. Je suis
sûre que tu vas faire un très beau chemin.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.